On va terminer ce journal, Coralie, avec 1% de la population mondiale qui détient, eh bien, la moitié des richesses mondiales. On parle, vous l'aurez compris, d'inégalités de revenus.
Des inégalités de revenus qui figurent désormais sur la liste des risques majeurs pour les progrès humains. C'est un des enseignements tirés du Forum économique mondial de Davos qui s'est achevé ce week-end. Durant ce forum, justement, l'ONG Oxfam a publié un rapport dans lequel elle explique que pendant la crise, les riches sont devenus encore plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Et ces disparités ont des conséquences dans des domaines autres qu'économiques. Sébastien Fourmi, porte-parole d'Oxfam France.
Le risque ne doit pas être pris uniquement d'un point de vue financier ou économique, mais la question des inégalités et de leur croissance extrêmement forte est aussi un risque sociétal, un risque démocratique. L'un des principaux risques que l'on a identifié, c'est ce lien entre accaparement économique et accaparement du politique. On pense peut-être plus facilement à des pays comme les États-Unis où les questions d'influence sur les politiques nationales sont souvent guidées, influencées par les multinationales, mais c'est un phénomène qui est aussi généralisé. Je prendrai un seul exemple, celui du Pakistan, où aujourd'hui, la plupart des membres du Parlement au Pakistan sont aujourd'hui des personnes qui sont les élites économiques locales et qui, aujourd'hui, ne font des lois qui ne concernent que leurs propres intérêts.
Voilà, Sébastien Fourmi, interrogé par Isabelle Cornet.
Merci Coralie Claude, c'était le journal de 8h. On va donc parler des riches aujourd'hui. Renaud Malik, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Ces riches qui auraient tout gagné.
Tout gagné, oui, l'argent, l'influence politique et même le contrôle des médias. C'est en tout cas le constat que dresse Jean-Louis Servan-Schreiber dans un livre qui fait pas mal parler de lui en ce début d'année. Le patron de presse y décrit un monde où les riches se sentiraient comme à la maison, où plus rien ne s'opposerait à leur pouvoir absolu. Même les simples citoyens que nous sommes auraient fini par accepter cette domination comme quelque chose de normal. Constat qui mérite toutefois d'être débattu, car si les riches ont gagné, alors à quoi sert-il de voter en Suisse pour le plafonnement des hauts salaires, l'interdiction des rémunérations abusives ou encore l'abolition des forfaits fiscaux? Doit-on comprendre que toutes ces initiatives sont vouées à l'échec et que d'une manière ou d'une autre, on doit aujourd'hui se résoudre à voir les inégalités se creuser inexorablement?
Alors on va en débattre et vous pouvez dès maintenant nous rejoindre au 0800 23 33 33, réagir également en utilisant le mot Diaz sur Twitter ou le mot Diaz ENLD sur Twitter ou encore notre page officiel Facebook. 8h10, excellent début de semaine. Vous êtes en ligne, sur la première, c'est en ligne directe. Soyez les bienvenus.
En ligne directe, Nicolas Iskiaou, Renaud Malik.
C'est début de semaine. Bonjour Jean-Louis Servan-Schreiber.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes journaliste, vous avez lancé de nombreuses publications dans la récente revue Clé, pour ne citer qu'elle, essayiste également, auteur du récent et passionnant « Pourquoi les riches ont gagné ?» paru chez Albin Michel. Alors pourquoi les riches ont gagné ? Sans point d'exclamation. Car dans ce que l'on pourrait appeler cette enquête, vous expliquez clairement comment un pourcentage minime détient une part importante de la richesse mondiale. Mais avant toute chose, Jean-Louis Servan-Schreiber, c'est quoi un riche ?
On est obligé de parler de chiffres parce que ça se compte en argent. On a une évaluation standard qui est de dire ceux qui sont millionnaires en dollars. C'est donc une somme qui est très importante pour la plupart des gens, mais qui en même temps, par rapport à ce qu'est la vraie grande richesse, est relativement modeste. Ces gens-là représentent 12 millions de personnes à travers le monde.
Et de plus en plus riche pour vous, vous l'avez constaté d'ailleurs étonnamment, depuis le début des années 2000, cette explosion elle a été observée à partir de là. Pourquoi ? On l'explique comment ?
Parce que la richesse a augmenté. N'est-ce pas, les riches sont un sous-produit de la richesse mondiale et il y a eu une très forte croissance, bien sûr, moins dans les pays d'Europe occidentale, c'est clair, mais dans tous les pays émergents qui représentent des milliards d'individus. Et partout dans le monde, donc, la richesse a augmenté de 70% depuis l'an 2000. Donc à partir de ce moment-là, bien sûr, les riches sont fabriqués par la richesse. Chaque nouvelle activité, en particulier l'économie numérique, a déterminé aussi une nouvelle catégorie de millionnaires et milliardaires.
Nouvelle catégorie, d'accord. D'un côté, des riches, mais aussi, là, vous l'avez peut-être entendu, le World Economic Forum, d'autres organisations qui s'inquiètent aussi des inégalités qui se creusent, qui seraient en augmentation. Quel regard, justement, portez-vous là-dessus ?
Ben, c'est évident que les chiffres de, on peut pas lire les chiffres d'Oxfam sans être un peu saisi d'une certaine manière de d'inquiétude pour le, un équilibre du monde où 1% possède la moitié du monde en quelque sorte. C'est une situation qui est maintenant, je dirais, d'autant plus déséquilibrée qu'elle est connue. C'est-à-dire, tout ça existait probablement depuis très longtemps. Sous l'ancien régime en France, l'inégalité était probablement encore plus criarde. Mais aujourd'hui, elle est connue. Et ça devient un problème politique central, je crois, un peu dans tous les pays.
Justement, un politique est avec nous ce matin. Restez avec nous, Jean-Louis Servan-Schreiber. On va continuer de débattre de ces fameuses inégalités, mais aussi de cette richesse qui nous interroge, car ils sont également présent autour de nous ce matin. L'avocat d'affaires Carlo Lombardini, bonjour.
Bonjour.
Benoît Gaillard également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Benoît Gaillard, président du Parti Socialiste, le Lausanne au Conseil Communal, ancien chargé de campagne de 1-12. On s'en souvient de 1-12, c'était il y a peu de temps. Un de vos camarades, et pas des moindres, a dit un jour, j'aime pas les riches. Vous savez de qui on parle ?
Dit comme ça, non.
Un certain François Hollande. C'était en 2006, dans un plateau de débat. Alors c'est la même chose pour vous ?
Non, absolument pas. Pour une première raison, c'est que je ne les connais pas, donc il me serait difficile de ne pas les aimer. Moi, ce que j'apprécie dans le débat d'aujourd'hui, c'est qu'on sort enfin des années où on a dit non, mais les inégalités ne sont pas si fortes que ça, elles n'existent pas. Ou quand on cherchait à poser ce débat, rien que poser ce débat, je ne parle même pas d'apporter des solutions, on se faisait soit renvoyer, bah, encore une fois, dans une sorte de déni, non, mais ces inégalités n'augmentent pas tant que ça, et puis surtout on était toujours renvoyé au fait que la pauvreté avait elle aussi tendance à diminuer, et puis ou alors on se faisait renvoyer dans la fameuse théorie du trickle down qui consiste à dire mieux les riches se portent, mieux tout le monde se porte. Et je crois qu'on a enfin les moyens maintenant de constater que c'est pas tout à fait vrai d'une part, et puis d'autre part que les conséquences de ça sont assez graves en termes de cohésion sociale, en termes de sentiment de constituer, de faire partie de la même société. Je disais en plaisantant, je ne connais pas les riches, bah oui, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'individus qui en fait ne naviguent plus du tout dans le même monde. Alors il y a toujours eu des mondes un peu différents qui se côtoyaient, mais je crois que les écarts entre ces mondes se creusent, et le livre de M. Servan-Schreiber, que je prétends pas avoir lu en entier, mais dont j'ai lu d'assez larges extraits, le montre, c'est-à-dire que c'est des gens qui évoluent dans un univers qui soit autant symbolique que géographique même, parce qu'ils se déplacent beaucoup, qui fréquentent des lieux tout à fait différents, un univers qui est séparé du reste du monde pour les classes moyennes et les classes populaires, etc. Et ça, je crois que c'est assez difficile d'évaluer les conséquences de long terme, j'ai juste le sentiment qu'elles pourraient être assez graves.
Carlo Lombardini, vous avez l'impression que les inégalités sont en train de s'accroître, ou est-ce plutôt la conscience des inégalités qui est un peu plus forte aujourd'hui ?
Je pense qu'il faut distinguer dans les inégalités les lieux. Je pense que la richesse qui s'est développée dans les anciens pays du bloc communiste, pays de l'Est, pays asiatiques, est impressionnante. Et une partie de cette richesse se retrouve en Europe occidentale, parce que la personne qui a un bel appartement à Londres, qu'elle aurait vendu 2 millions de livres sterling il y a 20 ans, va le vendre 25 millions de livres sterling à un Russe qui s'en tige de cet appartement. Je pense qu'en Europe, le phénomène contraire est en train de se créer, c'est-à-dire, bien sûr, il y a une minorité de riches, mais ça existera toujours, mais je pense qu'au contraire, il y a plus d'égalité compte tenu de politiques nettement plus sociales. Et je crois qu'il faut faire attention à ne pas s'inspirer de ce qui se passe dans les nouvelles économies, ou dans ces pays tels que la Chine, l'Inde et l'ancienne Union soviétique, où vous avez des richesses colossales, et le vrai problème de ces richesses, c'est pas tellement qu'elles existent, c'est comment elles se sont créées. En ce sens que vous avez des gens qui ont objectivement profité des richesses du pays au détriment de la collectivité. Je pense qu'il est très dangereux de s'en prendre aux riches de façon globale, parce que le terme riche révèle des réalités infiniment différentes.
Et vous avez l'impression, vous, Carlo Lombardini, que justement on s'en prend aux riches aujourd'hui ?
Je ne sais pas si on s'en prend aux riches. Je pense qu'il est normal que le sujet suscite un intérêt. Je pense que tout débat est intéressant s'il est fait de façon intelligente et non démagogique. Mais quand j'entends dire bien les riches vont dans des endroits différents, et alors les gens ont le droit d'aller où ils veulent, comme ils veulent, dans la mesure où le riche fournit sa contribution à la collectivité par le paiement de l'impôt, et je crois qu'on a tendance à oublier que dans les sociétés occidentales, une minorité infime de gens assume la vaste majorité des dépenses publiques. Je crois qu'il faut recentrer plus le débat, et pour moi la vraie question, ce sont les devoirs qui vont avec une certaine forme de richesse.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que celui qui est riche a un devoir vis-à-vis de la collectivité, c'est le paiement de l'impôt.
Il, idéalement, tout individu a ce genre de devoir.
Oui, mais plus vous êtes riche, plus votre impôt est élevé, et il y a beaucoup d'individus qui, pour des motifs légitimes, ne payent pas l'impôt.
C'est évidemment tentant d'évoquer la question des forfaits fiscaux et d'avoir le point de vue de mon partenaire de débat sur cette question-là, mais je crois que ça nous amènerait un peu trop loin. Moi, ce que je trouve important de dire, on s'en prend peut-être aux riches dans le débat depuis quelques années, c'est-à-dire on recommence à en discuter et c'est assez progressif, mais il faut juste pas confondre l'échelon de la discussion du débat public et l'échelon de la réalité. Dans la réalité, et là je m'inscris en faux avec ce qu'a dit Monsieur Lombardini, non, les politiques sont pas devenues de plus en plus sociales, l'imposition des entreprises ou des personnes les plus aisés n'a pas augmenté, il ne faut pas dire n'importe quoi. Donc, à l'inverse, les possibilités d'échapper à l'impôt d'un côté et la fiscalité d'autre part ont nettement diminué depuis quelques années en Europe, et c'est bien ce modèle-là qui a malheureusement eu tendance à s'imposer. Donc je crois qu'on est en fait peut-être parfois victime d'une sorte de piège, c'est-à-dire que dans l'opinion publique, on parle des riches, peut-être effectivement parfois avec un certain ressentiment, et puis dans la réalité, ils se portent de mieux en mieux. On sait que les écarts de fortune sont frappants, mais quand on parle de la masse sous gestion dans les paradis fiscaux, on est dans des milliers de milliards de dollars qui sont dans les paradis fiscaux. Je crois que ça donne aussi une impression générale de la façon dont les riches, comme l'évoquait M. Lombardini, s'acquittent réellement de leurs tâches. Alors évidemment, ils ne sont pas tous dans le même panier. Il y en a des bons, il y en a des exemplaires qui sont très honnêtes. Malheureusement, le système actuel leur donne beaucoup d'opportunités de ne pas s'acquitter de ses devoirs.
Si ces ultra-riches ont gagné, est-ce forcément un mal? C'est d'ailleurs la question que l'on vous pose au 0823 33 33. Jean-Louis Servan-Schreiber, vous avez entendu les deux arguments qui se confrontent, mais bon, dans le fond, il y a cette fascination autour des hyper-riches qui est aussi questionnée ce matin.
Oui, alors justement, je crois que quand on se fascine autour des hyper-riches, on passe complètement à côté du débat. Nous parlons là de 1% de la population, ce qui veut dire que dans tout pays, y compris la Suisse probablement, 99% sont plus importants. C'est eux qui représentent la vie sociale, qui sont les électeurs et qui ont aussi évidemment le principal de l'activité économique. J'entendais tout à l'heure Maître Lombardini qui disait que les riches payent pour l'essentiel des dépenses publiques. Bon, je ne sais pas si c'est le cas en Suisse, mais en tout cas, ça n'est pas le cas en France. Qui paye pour l'essentiel des dépenses publiques? Ce sont les prestations sociales et c'est évidemment les impôts de masse comme la TVA. Donc l'impôt sur le revenu représente, dans lequel les riches sont très très bien représentés effectivement, représente une très faible partie des dépenses de la contribution aux dépenses publiques. Donc les hyper riches sont médiatisés parce qu'ils ont effectivement un mode de vie clinquant, parce qu'ils sont visibles et parce qu'on en parle dans les médias. Mais ça représente quantitativement très peu de gens, et je dirais même économiquement, ce n'est pas une force considérable. Ce qui est important économiquement, ce sont les entreprises qui créent les emplois et qui manient des capitaux considérables. Et les riches, peut-être ont-ils une influence politique disproportionnée? Ça, c'est un sujet intéressant à explorer. Mais économiquement, ils sont visibles, mais ce n'est pas une force économique considérable.
Carlo Lombardini, vous avez l'impression que nous tordons l'opinion dans le sens de nos préjugés aujourd'hui autour des riches?
Non, mais je pense que l'intérêt autour des riches et des hyper-riches est normal. Il y a une part de fascination sur la vie de gens qui ont un style de vie totalement différent. Ce que je n'aime pas, c'est la généralisation. Parce que pour moi, Steve Jobs, c'est un hyper-riche, Bill Gates, c'est un hyper-riche, ils ont mérité jusqu'au dernier sou de leur fortune. Ils ont changé le monde, ils ont donné des emplois à des dizaines de milliers de personnes, ils ont fait une contribution énorme à l'économie collective dont tout le monde profite. Ça me gêne plus le riche qui est le produit de la civilisation de consommation, cela me gêne plus le riche qui exhibe sa richesse de façon obscène. Je pense que celui
certains
qui a
riches
beaucoup...
À Genève.
Je ne sais pas à Genève, mais en lisant parfois les gazettes People, on s'aperçoit qu'il y a certaines personnes qui se comportent de façon inacceptable. Je n'aime pas l'idée du riche qui dépense des millions pour une équipe de football alors qu'il pourrait les dépenser pour la lutte contre le cancer ou d'autres maladies. Donc il y a un devoir, à mon avis, avec le privilège, et le rôle de la société de rétablir l'égalité ou de rétablir l'égalité des chances. Parce que, qu'on le veuille ou non, le monde sera toujours fondamentalement inégalitaire. Et la société, par l'impôt et par l'éducation, doit rétablir. rétablir l'égalité des chances. Et là, je pense que malheureusement, en Europe occidentale, on a failli lamentablement.
Il est 8h22, vous êtes sur la première. Nous sommes en ligne directe jusqu'à 8h35 et on s'interroge sur ce rapport de cette organisation Oxfam qui le dit, 1% de la population détient la moitié des richesses mondiales. Il y a 12 millions de millionnaires, comme nous le rappelait Jean-Louis Servan-Schreiber, sur cette planète. Est-ce que ça vous choque? 0800 23 33 33. Il y a aussi les réseaux sociaux et depuis hier soir on mène le débat. Renaud Manique, je me tourne vers vous. Il y a quand même eu pas mal dans le fond de réflexion autour de cette richesse de ces millionnaires qui, en tout cas, ça pose pas mal de questions de fond sur les réseaux sociaux.
Oui, on a des réflexions souvent un peu désabusées. C'est l'histoire de quelques gourmands qui se moquent de millions d'affamés. Ça, c'est ce qu'écrit par exemple Thierry. Un autre internaute écrit que voilà, c'est tout le paradoxe du libéralisme que d'avoir produit l'aristocratie la plus concentrée que l'humanité ait jamais connue. Mais au-delà de ce constat, on avance tout de même des pistes pour redistribuer les cartes et éviter le basculement vers une société à deux vitesses. Et à ce titre, le revenu de base inconditionnel a été largement plébiscité. Ce système qui, comme l'écrit par exemple Charlie, permettrait de transformer chaque citoyen en actionnaire du progrès.
On le rappelle, c'est 2500 francs de base de revenu universel pour tous, donc pour chaque citoyen à partir de 18 ans.
En Suisse en tout cas.
Voilà, donc le sujet est lancé. On votera certainement là-dessus. Benoît Gaillard, ça vous laisse relativement sceptique.
Oui, enfin, ça me laisse sceptique parce que je pense que le présupposé pour que quelque chose de ce type fonctionne, c'est d'une part qu'il s'installe probablement pas dans un seul pays, et puis d'autre part qu'encore une fois la perception de l'impôt dont a parlé Monsieur Lombardini soit assurée. Et actuellement, c'est vraiment pas le cas. Il faut quand même rappeler que l'évasion fiscale reste un problème et qu'elle est probablement à la source de l'accumulation extrêmement forte de certaines richesses. Effectivement, il y a aussi évidemment des gens. Monsieur Lombardini me dit faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais je suis le premier à le faire. Il y a effectivement des gens tout à fait honnêtes qui ont accumulé une grande fortune par leur entreprise, etc., qui payent les impôts, qui participent à la vie sociale, c'est vrai. Mais enfin, il n'y a pas que ça non plus. Et puis j'aimerais juste revenir à une chose. La richesse, c'est quoi? C'est le produit du travail. La richesse, c'est il n'y a que le travail qui crée de la richesse. La richesse ne se crée pas toute seule. Et la question de savoir qui finalement obtient le produit de tout ce travail qui se fait dans le monde chaque jour, chaque année, etc., et ben, c'est une question qui est éminemment politique. Et je crois que ça mérite quand même de la reposer parce que, effectivement, on peut dire qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont mérité leur richesse. Je ne suis pas sûr que la notion de mérite soit si facile à définir. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a tous ces gens pauvres qui travaillent? Est-ce qu'ils ont mérité leur pauvreté? Et je crois qu'on peut dire non assez clairement. Et que probablement, il faut juste se rappeler qu'on ne pourra pas éternellement se dire qu'on réduit la pauvreté au bas de l'échelle des gens qui travaillent, par exemple, dans tous les pays. Ça concerne aussi un pays comme la Suisse. Sans jamais se poser la question de toucher un tout petit peu à ceux qui accaparent la richesse en haut de l'échelle.
Je voudrais intervenir sur ce que vous venez de dire, M. Gaillard, à propos du fait que la richesse serait créée uniquement par le travail. Ce serait un monde idéal, ce n'est pas du tout le cas. Ce qui a créé le plus de richesse dans la période récente, c'est le travail de l'argent dans la financiarisation de l'ensemble de l'économie mondiale. Et là, c'est de l'argent qui produit de l'argent sans nécessairement qu'il y ait le moindre travail. Et c'est d'ailleurs ce qu'a très bien expliqué récemment un jeune économiste français brillant qui s'appelle Thomas Piketty sur le capital au XXIe siècle.
Qu'on l'a reçu, sur cette antenne, oui.
Voilà, et qui explique justement que quand on a, mettons, un taux de croissance de 1,5% dans un pays, ben c'est le cas idéalement de la France, nous n'y sommes pas encore cette année, les capitaux peuvent rapporter 2, 3, 4 ou 5. Cette petite différence fait que automatiquement ceux qui ont déjà des capitaux s'enrichissent, même s'ils sont tout à fait ailleurs et ne travaillent pas du tout. Donc c'est ce que pose le problème de la développement de la richesse, c'est celui de sa source. Quand c'est le travail, ça n'a jamais choqué personne. Et quand c'est simplement le travail de l'argent, il est évident que ça pose un problème économique et social.
Carlo Lombardi.
Je partage totalement cette vision, surtout quand on voit le mal qu'une certaine forme de finance, je dis bien pas la finance, mais une certaine forme de finance a créé à la planète. Moi, je suis aussi gêné par la richesse créée par la civilisation de consommation et l'exploitation un peu obscène de la jeunesse et de la population. Et ce qui me gêne aussi dans ce débat, c'est qu'on ne doit pas être fasciné par les riches, on devrait être fasciné par des grands scientifiques, par des grands médecins, par des écrivains. Et en réalité, on s'aperçoit qu'il y a une telle, parfois, haine de l'argent chez certains partis politiques ou chez certaines classes politiques qu'elles oublient les vraies valeurs qu'elles devraient propager, qui est l'éducation, qui est la seule vraie possibilité de changer les inégalités. Et en tous les cas, de donner à certains les chances de s'en sortir.
Là, je crois que ça vous est un petit peu dirigé, Benoît Gaillard, en tout cas votre parti.
Oui, enfin, je sais pas très bien. C'est des propos tellement généraux. Je veux dire, on peut rester ici longtemps à dire oui, il faudrait pas discuter de ça. Il faudrait plutôt faire un peu plus d'éducation. Moi, ça m'intéresse pas tellement. J'aimerais simplement répondre à Monsieur Servan-Schreiber. On s'est peut-être et probablement mal compris. Il faut quand même démonter un petit peu ce mythe de l'argent qui travaille. Qu'est-ce que c'est que l'argent qui travaille? L'argent qui travaille, c'est du capital investi dans une entreprise, dans une activité économique, qui en réalité capte une partie de la valeur créée par le travail. Donc, encore une fois, la valeur ne vient que du travail. L'argent ne fait pas des petits. Lorsque on fait, comme on dit effectivement de façon populaire, travailler de l'argent, c'est qu'on investit de l'argent qui effectivement accapare une partie de la valeur créée par le travail. C'est-à-dire que effectivement, si je monte une entreprise, je mets X francs de capital. Le différentiel entre ce que ça produit en termes de valeur, la vente de mes produits, etc., et ce que je vais reverser à ceux qui travaillent pour cette entreprise, ce sera la rémunération de mon capital. Donc elle peut effectivement être supérieure à la croissance, par exemple, dans un pays. Il faut juste pas qu'on tombe dans ce mythe de l'argent qui travaille tout seul. Derrière l'argent qui travaille, c'est toujours des gens qui travaillent. Le mythe existe, mais la réalité n'existe pas. Derrière l'argent qui travaille, qui travaillerait tout seul, il y a toujours des gens qui travaillent et dont le travail est moins rémunéré. C'est extrêmement clair. Et d'ailleurs, pour reprendre encore l'exemple de Piketty, si dans le même pays, avec la même croissance, on rémunérait les salariés un peu davantage, par exemple, ben on aurait la même croissance, effectivement, mais le capital obtiendrait un peu moins d'argent. Donc, ce n'est pas de l'argent qui est créé de façon magique comme ça, parce que l'argent se reproduirait. Ça, c'est quand même vraiment un mythe qu'il faut démonter. La valeur et la richesse qui est accaparée par certaines personnes ne vient que du travail d'autres personnes.
Thomas Piketty, qu'on avait reçu avec vous, Maître Lombardini, si je me souviens bien. Vous n'étiez pas tout à fait d'accord, d'ailleurs, sur certains points. Renaud Malik.
Je vous propose peut-être de revenir sur un point qui a été soulevé tout à l'heure par Jean-Louis Servan-Schreiber, à savoir l'influence politique démesurée des ultra-riches. Ça, c'est l'expression, je crois, que vous avez eue tout à l'heure, Jean-Louis Servan-Schreiber. Alors, nous, on a posé la question sur les réseaux sociaux. Est-ce que la démocratie a les moyens ou non de faire barrage au pouvoir croissant des ultra-riches? Eh bien, la réponse unanime, c'est oui. Oui, les droits populaires en Suisse, hein, notamment, sont un garde-fou efficace. Alors, évidemment, on a parlé des initiatives qui succèdent, hein, qu'elles s'appellent 1-12 ou encore Minder. Alors, comme le rappelle Monique, il ne faut pas cesser d'utiliser tous les leviers qu'offre la démocratie directe. Et puis, tiens, c'est le ver vaudois Alberto Mocchi qui estime crucial de modifier la législation sur le financement des partis afin, précisément, d'empêcher que l'influence des ultra-riches ne s'exerce sans aucun contrôle.
Oui, autant de sujets d'ailleurs, Jean-Louis Servan-Schreiber, qui questionne la dominance de la valeur argent. Je crois que ce terme a été utilisé par Benoît Gaillard. La dominance de la valeur argent et sa place dans notre société.
Oui, je termine mon livre sur ce sujet, car évidemment derrière tout cela, c'est la dimension morale qui est la plus porteuse de conséquences à long et à moyen terme. La valeur argent est devenue dominante et ma conclusion s'appelle le veau d'or seul en piste, parce que désormais, les valeurs purement morales, les valeurs d'esthétique, les valeurs d'idéologie politique se sont affaissées et il reste en dominance leur référence à l'argent. Tout ce chiffre, y compris en art, par exemple, la manière d'évaluer une œuvre d'art ne peut plus être dite sur le plan esthétique, car l'art maintenant a toutes sortes de formes de nos jours, mais on peut la compter en valeur financière et en spéculation. Donc, c'est cette influence pernicieuse de la valeur argent comme présente à tous les niveaux de la société, pas seulement chez les riches, comme étant la seule référence qui, je crois, est probablement ce qui est plus préoccupant pour l'évolution de la société telle qu'elle est actuellement.
Carlo Lombardi.
Pour moi, je crois que c'est très juste ce qui vient d'être dit. Pour reprendre sur l'influence des riches sur la vie sociale, pour moi, l'exemple d'un grand danger est quelqu'un comme Silvio Berlusconi. Ce n'est pas tellement sa richesse, mais c'est le fait que par son contrôle des médias, il a eu la possibilité d'influencer l'intellect de l'électorat et d'entraîner un phénomène d'abaissement du niveau général de l'électeur en Italie avec les résultats que l'on voit. Et ça peut être extrêmement, extrêmement dangereux comme situation. Et il faut revenir à d'autres formes de valeurs et ne pas se concentrer sur l'argent, même avec cet aspect de haine contre l'argent.
Ça vous fait sourire, Benoît Guerre.
Non, mais moi, je peux rejoindre ce discours. Moi, je le partage. D'ailleurs, je pense qu'effectivement, dans un sens, l'argent est parfois en train de enfin, l'économicisme ou le primat de l'économie dans tous les domaines détruit un peu aussi les communautés, les liens entre les gens, etc. J'en suis absolument convaincu. Simplement, j'aimerais juste dire, c'est aussi un problème qu'on peut se poser quand on en a les moyens de se demander s'il faut parvenir à des valeurs plus fondamentales, plus simples, etc. C'est quand même un problème qu'on se pose plus volontiers le ventre plein que le ventre vide. De ce point de vue-là, j'aimerais quand même juste rappeler qu'il y a des solutions politiques à l'accumulation excessive de richesses tout en haut de l'échelle. J'en cite simplement deux. Il y en a une qui sera dans l'actualité en Suisse bientôt, c'est la question du salaire minimum. Je crois que c'est quand même une question qu'on doit et qu'on peut se poser et qui pose aussi la question du mérite qu'évoquait M. Lombardini, c'est-à-dire qui mérite de gagner seulement 3000 francs par mois en Suisse. À mon avis, personne s'il travaille. Et puis deuxième chose, la question de la lutte contre l'évasion fiscale qui va rester à mon avis sur le devant de la scène. J'espère qu'on trouvera des solutions internationales réelles.
Mais j'aimerais quand même dire que n'importe qui peut lire un livre de poche. Je suis désolé. Cette idée que les valeurs culturelles sont réservées aux riches est totalement erronée. Quand j'entends pour certaines valeurs, il faut avoir le ventre plein, n'importe qui peut écouter Mozart sur YouTube, n'importe qui peut lire Proust, Camus, Stendhal ou Balzac dans le livre de poche. C'est faux. Et c'est bien là le problème, c'est que certaines valeurs ne sont plus propagées par ceux qui devraient les propager.
Il est bientôt 8h35, c'est bientôt la fin de ce débat. Alors, on va peut-être accueillir un auditeur, on l'espère, parce que visiblement, il y a une machine qui est un peu en train de s'emballer, comme la finance parfois peut à Wall Street le faire, Renaud. Non, alors bon, c'était les propos d'un... Voilà, il est là, il est avec nous. On l'écoute. Bonjour Mohamed.
Oui, bonjour.
Vous êtes informaticien, vous appelez de Lausanne. Brièvement, on vous écoute.
Absolument. J'aimerais juste rebondir ce qu'avait l'un de vos intervenants concernant que l'argent qui vient que du travail.
Oui.
J'aimerais juste dire que c'est pas tout à fait le cas dans notre époque. Depuis une dizaine d'années, tout à l'heure, M. Lombardini l'a souligné, c'est qu'on peut effectivement gagner énormément d'argent dans les finances sans travailler la moindre seconde. On laisse des ordinateurs qui travaillent derrière, on met en place des algorithmes et ça le fait, ça existe, c'est à Zug, c'est à Genève, à Zurich, et partout. Dans les banques, les grandes banques au niveau mondial.
Et vous avez peur
dans
que la valeur du travail, justement, est mise à mal aujourd'hui?
Absolument. Donc, et c'est tout le problème, justement, c'est qu'on peut gagner énormément d'argent sans travailler. C'est là où il y a la perte de repère totale pour nous actuellement.
Mais monsieur, on s'est mal compris, suis pas bien exprimé. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Le seul point, c'est que ces gens qui gagnent de l'argent en ayant à la base que de l'argent et quelques, effectivement, formules informatiques ou en spéculant, etc., ils s'accaparent le produit du travail d'autres. Donc vous avez raison, ces gens ne travaillent pas, mais ils s'accaparent le produit du travail d'autres. Cet argent ne sort pas de nulle part. C'est ça que je voulais dire. Mmh. Cet argent ne sort pas de nulle part.
Mais voilà, élément de réponse en tout cas. Mohamed, on vous remercie de nous avoir appelé au 0800 23 33 33. Merci également à nos invités Benoît Gaillard, Carlo Lombardini, et merci à Jean-Louis Savant-Schreiber d'être venu nous parler de son dernier ouvrage, Pourquoi les riches ont gagné. C'est paru chez Albin Michel. Excellente journée à vous trois messieurs. Le débat continue sur les réseaux sociaux.